Bonjour et bienvenue dans le podcast Gardien de la naissance. Ici, on explore ensemble cette aventure bouleversante qui est celle de devenir père aujourd'hui. Le défi est immense. Pourtant, il est souvent invisible parce que ce ne sont pas eux qui portent le bébé 9 mois, qui accouchent, qui allaitent. Mais parce que leur rôle est essentiel, ici, je leur donne la parole. Chaque mois, je partage des témoignages de pères et des interviews d'experts pour t'aider à vivre ta paternité pleinement. Je suis Susanna, la créatrice de ce podcast, et si tu t'interroges sur mon accent, je suis portugaise. Et si je suis ici aujourd'hui avec toi, c'est parce que la naissance de mes deux enfants a complètement transformé ma vie. Et j'ai vu l'impact décisif que mon partenaire a eu sur mes grossesses, mes accouchements et même mes allaitements. Sans lui, sa préparation, son implication, c'est sûr que rien n'aurait été pareil. Dans une vie d'avant, je gérais une start-up dans la finance. Et puis, je suis devenue mère et j'ai tout quitté pour suivre mon intuition, ce besoin de comprendre l'humain, le corps, le lien, l'amour. Et aujourd'hui, j'accompagne les futurs pères et les couples à se préparer ensemble à l'arrivée de leur bébé. Avant de commencer, si tu veux aller plus loin, j'ai créé un défi audio avec des exercices pratiques pour passer à l'action et commencer à incarner dès aujourd'hui le pilier, le gardien puissant, le père présent que tu as envie d'être. Le lien est dans la description de cet épisode. Je te souhaite une très belle écoute. C'est parti. Bonjour Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Bonjour Susanna.
Est-ce que ça te va de te présenter en quelques mots?
Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Thibaut. J'ai une trentaine d'années, on va dire 33 ans. Et je suis papa de deux petites filles qui ont 5 et 2 ans. Je suis préparateur en pharmacie. Et puis, on est installé à La Roche-Posay, dans la Vienne, depuis 6 ans déjà. Voilà, on s'est installé pour fonder notre famille, notre foyer. Voilà. Et, on a trouvé notre job, notre maison et on est bien installé maintenant. Entre la France et la Belgique avec ma femme parce qu'elle est belge. Et du coup, on fait souvent les allers-retours et on s'est beaucoup posé la question justement à savoir si on allait plutôt en France ou en Belgique et on a préféré s'installer près de chez mes parents pour élever les enfants. C'est quand même pratique d'avoir des parents à côté pour s'occuper des enfants quand on a des imprévus ou un emploi du temps un peu serré. Voilà.
Est-ce que tu as toujours envie d'être papa?
J'ai toujours été à l'aise avec les enfants, il me semble. Et on m'a toujours vu donner le sourire aux enfants. Et ça m'a rassuré dans le rôle d'être un jour papa. J'ai pas eu peur.
D'accord. Voilà. Et du coup, ça s'est passé comment? Un jour, vous vous réveillez et vous dites, c'est le moment?
Ouais, on était d'ailleurs en Belgique en vacances. C'était un matin. On s'était réveillé tranquille. Et on s'est dit, pourquoi pas avoir des enfants tous les deux. C'était vraiment un réveil assez particulier parce qu'il y avait on était vraiment en phase tous les deux sur cette question-là. Alors que bon, on se la posait pas vraiment avant et puis elle m'a pas du tout mis la pression pour faire des enfants quoi. Tu vois. C'est vraiment c'est venu comme ça un peu. C'est une discussion qui est venue le matin et on était complètement d'accord sur ça. On était partant pour le faire quoi.
Ouais, ça s'est passé comment? C'était arrivé vite?
Pas du tout. Ouais, franchement, ouais. On a pris la décision assez rapidement. Elle a arrêté la pilule quasiment dans les semaines après la discussion et elle est tombée enceinte hyper rapidement. Même pas 15 jours, 3 semaines. On a eu la chance d'avoir la nouvelle et c'était même une surprise en fait parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle tombe enceinte aussi rapidement. En plus, on venait d'acheter la maison, on avait juste emménagé. Et du coup, on avait plein d'idées de travaux à faire dans la maison. Et moi, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment le bon timing pour que Véro soit enceinte alors que j'ai besoin d'elle pour faire les trucs, le bricolage, les machins, parce que je ne suis pas un expert en bricolage. J'ai mon père qui va m'aider, ça je le sais. Mais j'aurais voulu qu'on soit tous les deux à fond dans la maison à ce moment-là parce que c'était vraiment notre bébé premier, c'était la maison qu'on venait d'acquérir. Et du coup, ça a été un peu surprenant et on a été pris un peu de court. Et en fait, on n'avait pas vraiment réfléchi que c'était pas forcément le bon moment, mais c'est quand même le bon moment.
Et ça s'est passé comment cette première grossesse? Est-ce que déjà tu as réussi à mettre l'idée des travaux de côté ou est-ce que tu as essayé de mener les deux de...
J'ai jonglé un peu entre les deux. Ma priorité, c'était les travaux, quand même, parce que on avait surtout un logement aménagé en bas pour faire, c'est un investissement locatif, etc. Et du coup, il fallait mettre ça en place pour qu'on ait un peu d'argent, un peu d'apport, etc. Il fallait vraiment faire ça en premier. Et après, ça a été la chambre des petites, enfin de la petite, du coup, de notre enfant. On savait pas encore si c'était garçon ou fille. Et du coup, ouais, j'ai jonglé un peu entre les deux. Ça a été long, je pense, le processus d'être père. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout père encore. Véro, elle se préparait beaucoup à l'accouchement. C'était pour elle une angoisse un petit peu. Et du coup, elle a été vraiment focus là-dessus, beaucoup. La grossesse s'est un peu développée comme ça. Moi, ça a mis un peu plus de temps à réaliser, à me projeter vraiment dans le rôle d'être papa. Parce que bah, j'avais des priorités qui étaient dans la maison.
Est-ce que tu t'es préparé quand même ? À quel moment tu as commencé à te préparer ? Est-ce que tu as participé aux séances de préparation avec la sage-femme ? Est-ce que tu as lu des livres ?
Ouais, complètement. En fait, Véro, elle a pris... comme elle avait beaucoup d'angoisse par rapport à l'accouchement, et surtout par rapport à l'hôpital, elle s'est beaucoup renseignée justement pour essayer de trouver ce qui sera le mieux pour elle, pour l'accouchement en tout cas. Et en fait... elle a des connaissances d'une maman qui avait accouché à la maison grâce à une sage-femme qui était venue chez elle et qui l'avait aidée à faire l'accouchement, à passer l'accouchement en fait. Et du coup, elle s'est dit, en fait, c'est ça qu'il me faut. Et tout de suite, on a contacté cette sage-femme, on a pris les rendez-vous, on a été au rendez-vous ensemble avec cette sage-femme qui était à Tours, donc qui était à une heure de chez nous. Et du coup, on y allait tous les deux à chaque rendez-vous pour faire un peu le suivi de grossesse. Et du coup, effectivement, ouais, j'étais déjà quand même pas mal investi. Au début, j'étais un peu réticent au fait de choisir un accouchement à domicile parce que moi qui suis un peu dans la santé, je me disais, enfin, moi j'avais toujours confiance aux médecins, à la médecine en général. Et du coup, remettre en question ça me paraissait un peu extrême, on va dire. Mais après avoir discuté avec la sage-femme au premier rendez-vous, en fait, j'ai compris que les enjeux étaient autres que la médecine. En fait, il y a des risques, mais la plupart du temps, ça se passe bien. Et justement, il faut faire en sorte que tout se passe bien le jour de l'accouchement, même avant, la préparation, etc. Donc, ça m'a rassuré là-dessus. Très vite, j'ai accepté. J'ai pas du tout. J'ai voulu respecter les choix que Véro avait parce que je voyais qu'elle avait vraiment beaucoup de réticence à aller à la maternité, etc.
Et du coup, ça se passe comment, l'accouchement ? Ça commence comment, déjà ? Comment tu te sens à ce moment-là ?
Eh bien, en fait, on était au jour présumé d'accouchement. Et là, pas de déclenchement encore. Donc, on se questionne un petit peu. On avait un rendez-vous pour faire une écho. Et du coup, notre sage-femme nous dit, n'allez pas à l'hôpital. Allez faire une écho chez une sage-femme qui fait des échos, mais dans son cabinet, pour voir un petit peu où ça en est, en fait. Et la sage-femme nous a dit, écoutez, il n'y a plus beaucoup de liquide, etc. Ce serait bien d'aller à l'hôpital, etc. Un peu paniqué et tout, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on y va ou pas ? On prend rendez-vous à notre sage-femme en urgence, on va la voir, on discute avec elle. Elle nous dit, écoutez, il n'y a pas beaucoup de liquide, ok, ça on le sait, mais on se dit encore demain matin... Et on voit demain matin, vous, si c'est pas encore déclenché, vous allez à l'hôpital. Et finalement, on est rentré chez nous. Et donc, le fait d'avoir fait Poitiers, donc une heure de route, Tours, on a eu pour une heure et demie, et revenir, encore une heure de route. Finalement, le soir, je pense que ça a aidé. Et du coup, ça s'est déclenché dans la nuit, vers minuit, une heure. Et du coup, les premières contractions arrivent dans la nuit. Et pas de panique, jusqu'à 3-4 heures du matin, et je vois que le travail commence bien, et du coup, jusqu'à 5 heures, je me dis, allez, ça travaille, et je me dis, je vais appeler la sage-femme quand même, parce que je sens que ça peut venir. Et du coup, je l'appelle à 5 heures, elle me dit, ok, pas de souci, j'arrive. Donc le temps qu'elle prépare son matériel, qu'elle fasse la route, etc., eh bien, elle est arrivée vers 6h30, 7h. Moi, en attendant, j'ai préparé la piscine pour que ça puisse l'aider. Et du coup, j'ai commencé à remplir la piscine, sauf que j'ai pas bien installé le truc. Il a fallu que je vide l'eau et que je remette de l'eau chaude. Et j'avais plus d'eau chaude dans le ballon. Du coup, la piscine était à moitié remplie. Et j'étais en stress total parce que je me dis, en fait, la sage-femme va arriver, la piscine ne sera pas remplie du tout, ça va servir à rien. Et effectivement, quand elle est arrivée, bah, j'avais pas beaucoup d'eau dans cette piscine. Et alors tout de suite, elle a été voir Véro, etc. Elle a regardé un peu comment ça allait. Et après, donc il y avait la sage-femme est venue avec une doula. Et avec la doula, bah du coup, on a chauffé des casseroles et on a chauffé de l'eau et on les mettait dans la piscine, etc. Et on faisait un roulement en fait avec la sage-femme, la doula, entre ceux qui mettaient à chauffer, ceux qui étaient avec Véro pour l'accompagner dans ses contractions. On remplissait petit à petit la piscine avec les casseroles, quoi. Donc beaucoup de stress, beaucoup de stress pour moi parce que bah je me sentais beaucoup coupable en fait de pas avoir fait les choses bien dès le début. Je m'étais mis une grosse pression là-dessus. Et elle a pu aller un peu dans la piscine, ça l'a bien soulagée. C'est un travail qui a été long hein, parce que elle est née à 13h24, il me semble. Donc ça a été très long le travail. Il y avait eu l'hypothèse d'aller peut-être à l'hôpital parce que c'était un peu long. On était sur le point de dépasser justement le temps imparti, entre guillemets, que se donne la sage-femme en fait pour que le bébé sorte. Mais finalement, non, elle a pu sortir à temps. Donc elle est née dans le canapé, à la maison. Et on n'a pas bougé pendant 15 jours après. On était dans ce canapé tous les trois avec notre bébé. La sage-femme est restée, elles sont restées avec la doula, elles sont restées le temps de ranger tout le matériel, etc. Nous, on était avec notre bébé. Et elles ont rangé tout le matériel et tout, et en 2 heures, elles étaient parties. Donc, elles ont fait tous les contrôles, etc. La sage-femme a fait tous les contrôles nécessaires pour qu'elle sache que notre bébé, elle est bien, et que Véro, elle est bien, surtout. Du coup, après, on s'est retrouvés, en 2 heures de temps, on s'est retrouvés à 3 dans la maison. Et on se dit, en fait, c'est pas trop mal. C'est beaucoup mieux que d'être à l'hôpital et de pas savoir quand est-ce que tu vas rentrer chez toi. Et là, t'es directement chez toi et... On en a profité pour faire une sieste et on s'est réveillé en fin d'après-midi et on était sur un nuage, quoi. On était sur un nuage. Véro était complètement shootée, évidemment, avec ce bébé qui était sur elle, qui avait réussi à prendre le sein très vite. Du coup, même le soir, complètement détente, on a pu regarder Koh-Lanta. On a fait notre vie. On a commencé vraiment notre vie de parents comme si de rien n'était, quoi. Et là, pendant près d'une semaine, 15 jours, on n'a pas bougé du canapé, quasiment. Même on se couchait dans le canapé et tout, on restait dormir dedans. On était en peau à peau tout le temps avec notre bébé, quoi. Pendant une semaine, 15 jours.
D'accord. Et alors, ouais. T'es passé dans un gros moment de stress
pour l'installation, pour mettre en place tout ce que je pouvais faire pour l'accouchement. J'avais pas grand chose à faire à part ça. Et ça partait mal. Mmh. Et du coup, ça m'a mis beaucoup de stress dès le début. Et dès qu'elle est née, notre fille, c'était la délivrance.
Ah oui, tu as retrouvé ton niveau de calme uniquement après la naissance, c'est ça?
Ouais, ouais. Complètement. Dès qu'elle a pu aller dans la piscine, déjà, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, bon, ça y est, j'ai accompli ma mission, même si, bon, elle est pas terrible. Elle est pas très bien faite, mais en gros, voilà. J'ai vraiment été soulagé lors de la délivrance.
D'accord. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir ta fille naître?
C'était puissant parce que c'était intense. En fait, la sage-femme, elle l'a accompagnée à la descente et puis elle a passé une épaule, deux épaules et après elle m'a laissé faire, quoi. Elle m'a laissé faire. Donc j'ai accueilli ma fille avec. Par les épaules, enfin je l'ai prise et j'ai réussi à la sortir et je la tenais, je l'ai tenue, je sais pas, peut-être une seconde et demie, je l'ai prise et je la regardais, quoi, et après je l'ai donnée à sa mère, mais je sais pas, c'est une seconde, deux secondes qui se sont passées, ça m'a semblé très très fort, quoi. Très fort et très long, parce que je m'en souviendrai toute ma vie. Parce que je m'en souviens encore, et pourtant, j'ai pas une mémoire très forte, mais ce moment-là, je m'en souviendrai tout le temps. Et du coup, je voulais la garder, et je savais qu'elle avait besoin de sa mère, et que sa mère avait besoin aussi d'avoir son bébé sur elle. Mais j'étais vraiment très, 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 très impressionné de pouvoir accueillir ma fille. Et j'avais peur de la casser, parce qu'en plus, elle était toute moite, elle était remplie de liquide, etc. Et du coup, j'avais peur de l'échapper. Et c'était de la peur, de la fierté, et puis c'était étrange, quoi. C'est un moment un peu étrange.
Et par rapport à Véro, de l'avoir vu faire ce travail quand même exceptionnel, est-ce que ton regard il a changé?
Bah, je ne l'ai jamais vu crier autant. c'était un cri qui venait de je ne sais pas où. C'était impressionnant. Impressionnant de voir le travail qu'elle pouvait faire, la souffrance qu'elle pouvait endurer à ce moment-là. Mais c'est de la souffrance... on ne va pas dire souffrance, c'est vraiment du travail, quoi. Elle était préparée à accueillir les contractions, etc. Et du coup, elle était libérée, elle pouvait crier autant qu'elle voulait, mais c'était crier dans le sens, ouais, je sais pas, c'était pour accueillir les contractions, quoi. Et ouais, ça m'a vraiment impressionné. Et pour le deuxième accouchement, c'est pareil, c'était toujours très impressionnant au niveau sonore. C'est au niveau sonore, ça m'a vraiment impressionné, quoi.
Du coup, pour le deuxième, c'était pareil. Vous aviez décidé de faire le même type de suivi, le même type d'accouchement.
Exactement. On s'était dit, on a réussi une fois, pourquoi pas deux. On retente l'accouchement à domicile. Tout s'est bien passé. J'ai réussi à mettre la piscine à temps, remplie, à bonne température. Et elle a pu accoucher dans la piscine. Et pareil, au moment de la délivrance, elle a beaucoup souffert. Au moment de la délivrance, vraiment beaucoup plus que pour la première. Ça a été très 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 dur pour elle la délivrance, mais après quand on l'a vue dans l'eau, on l'a pas prise tout de suite, on l'a laissée barboter dans cette eau et on voyait une ombre, on savait pas encore quel sexe elle avait. En plus, on s'était laissé la surprise au moment de l'accouchement et du coup je l'ai prise, je l'ai sortie de l'eau et tout de suite on a regardé le sexe et au début on comprenait pas. Et on savait pas. Véro, elle a même pas tuté, en fait. Elle a même pas regardé. Elle savait pas que c'était un garçon ou une fille. Moi, j'avais vu que c'était une fille. Et ouais, c'était pareil, un moment un peu suspendu, comme ça, où je la sors de l'eau et que. Franchement, on la sort tous les deux de l'eau. Et on la met sur elle. Et pareil, gros moment de délivrance, gros moment de soulagement aussi. Et d'émotion. J'ai eu les émotions tout de suite pour le deuxième accouchement. Vraiment, je me suis mis en pleurs tout de suite quand je l'ai vu parce que c'était vraiment très très beau. Cet accouchement dans l'eau, dans la piscine, là, c'était vraiment très très beau. Et ça a été fort aussi au dernier moment, ça a été très fort pour la délivrance. Et du coup, ouais, là, pour le deuxième, j'ai eu les émotions tout de suite, tandis que pour la première, les émotions sont venues après, un peu en contre-coup, 5-10 minutes, peut-être pas 10 minutes, mais au moins 5 minutes après l'accouchement. Le stress là, il est tombé, et je me suis effondré. D'ailleurs, on a filmé l'accouchement pour la première et pour la deuxième aussi, mais on a filmé aussi ça et on voit qu'au début, je lâche pas prise et après je lâche prise d'un coup et voilà.
Ah, c'est magnifique.
Et je m'effondre parce que beaucoup d'émotions à chaque fois. Est-ce que je serais prêt à vivre ça une troisième fois? Je sais pas. Je pense qu'on a eu notre dose d'émotions, mais bon, je pense que ces émotions-là, il n'y a rien qui peut les atteindre plus.
Et où est-ce qu'elle était, votre aînée, pour le deuxième accouchement?
L'aînée, à ce moment-là, en fait, on l'avait, la veille, on l'avait laissée chez mes grands-parents. Au début, on voulait qu'elle soit là pour l'accouchement, mais au vu de son caractère et au vu de... On ne sentait pas, en fait. On ne sentait pas la garder parce qu'on s'est dit, elle va avoir besoin d'attention, je pense, et on n'était pas prêt à lui donner de l'attention à ce moment-là. On aurait voulu qu'elle soit là, ça c'est sûr. Dès le début, on s'était dit, ça serait trop bien qu'elle soit là, ça serait trop bien, ça serait trop bien. Mais finalement, on s'est dit non, non, en fait. On va la laisser chez papy mamie ce soir-là. Et puis en fait, une heure ou deux après, je crois, pareil, les sages-femmes sont parties et mes parents sont venus. Mes parents sont venus avec la petite, enfin avec la grande du coup, et pour rencontrer le petit bébé. Pareil, un grand moment d'émotion aussi, qu'elle voit sa petite sœur. Pas trop eu de réaction de sa part, parce qu'elle est assez réservée à ce moment-là. Mais elle s'est mise, donc Véro avait la petite au sein, et du coup elle a allaité aussi la grande encore. Et du coup la grande s'est mise au sein aussi à ce moment-là, et du coup toutes les deux se sont mises au sein. Et ça a été la rencontre, à ce moment-là, c'était la mise au sein, quoi.
Non, c'est fou, ça.
Ouais. Un sein chacun, et c'était beau, quoi. Ouais, c'était beau, la rencontre était belle. On était contents qu'elle soit pas là, parce que C'était quand même assez long aussi le travail. Et je pense qu'elle aurait eu peur aussi de voir sa mère en travail. Je pense. Elle aurait été impressionnée.
Oui.
Aussi. Et je pense qu'elle aurait eu pris peur et elle n'aurait pas été à l'aise. La connaissant ma grande, elle n'aurait pas été à l'aise à ce moment.
Et tu as dit que pour la première, vous êtes resté 15 jours sur le canapé. Est-ce que du coup, vous aviez prévu du soutien, des repas déjà tout prêts? Comment vous avez...
Repas, effectivement, on a préparé quelques repas au congèle. Et puis, en termes de soutien, mes parents étaient là quand même comment dire. On savait qu'ils étaient là, mais en fait, on n'a pas eu forcément besoin d'eux à ce moment-là. Parce qu'on était vraiment sur notre nuage. Et on savait qu'ils étaient là en cas de soutien, mais en vrai, on n'a pas eu besoin. On avait préparé pas mal de choses avant.
Donc, les premiers 15 jours, tout doux, sur le canapé, un peu à peau. Comment ça se passe, le retour à la réalité?
Moi, je reprends le boulot 15 jours ou 3 semaines après, je crois. Je crois que j'avais pris 15 jours, justement. Je pense que pour moi, ça a été pas trop difficile, dans le sens où ça me faisait quand même un pincement au cœur de partir et voir Véro avec ce bébé, mais qui dort tout le temps, donc c'était pas trop pénible pour elle, mais je voyais qu'elle était un peu coincée avec ce bébé et moi un peu coincé à aller travailler, quoi. C'était un peu dur, de temps en temps, mais j'étais pas encore très lié au bébé, même si je faisais du pot à pot, quoi. De temps en temps, il y avait du relais quand même, mais la charge, c'était quand même gros pour elle. Enfin, le bébé était vraiment beaucoup avec elle. Elle tétait assez régulièrement, elle faisait beaucoup de siestes, et du coup, pour que ça soit plus pratique, c'était surtout sur sa mère qu'elle faisait la sieste. Et du coup, moi, j'étais autour, je gravitais autour, je faisais à manger, je faisais le ménage, je faisais en sorte que la maison tourne, quoi, sans solliciter maman.
À quel moment tu as senti que le lien avec ton bébé commençait vraiment à être solide?
Eh bien, Véro, elle s'est arrêtée les 6 premiers mois, il me semble. Et ouais, elle était en congé les 6 premiers mois. Après, moi, j'ai pris le relais. J'étais 3 mois en congé parental. Et donc, 3 mois à la maison, avec notre grande, du coup. Et du coup, là, je m'en occupais vraiment toute la journée. Et ma femme, elle a repris boulot, du coup. C'est là que j'ai pu se connecter, parce qu'en fait, elle avait déjà 3 mois. Et du coup, j'arrivais à prendre le relais avec les biberons parce que elle avait tiré le lait. J'avais juste à faire les biberons et à gérer les siestes, etc. Les couches, tout ça. Enfin, voilà, j'en occupais pleinement, en fait, toute la journée. Donc, c'est là que j'ai plus eu le rôle de père, proprement dit, où c'est quand t'es tout seul avec elle, t'as pas le choix, t'apprends tout, quoi. T'apprends à connaître ton bébé, t'apprends à gérer ton bébé, à gérer les siestes, les biberons, etc. C'est quand t'es tout seul avec elle que faut y aller. C'est ton rôle, c'est ton moment. Profites-en. Et du coup, j'ai fait 3 mois à la maison avec elle. Et après, j'étais à mi-temps. On a commencé la crèche. Elle avait 9 mois.
Mais est-ce qu'il y a eu des moments où elle se sentait un peu dépassée, découragée? Et est-ce que tu as pu faire quelque chose qui l'a reboostée?
Ouais, je pense que le fait que j'ai pris mon congé parental au bout de 6 mois, il était temps. Il était largement temps parce que c'était en plus en période Covid. On voyait personne. Véro ne pouvait pas sortir. Elle était coincée avec ce bébé. Elle n'avait pas vraiment de relais. Même mes parents, ils venaient de temps en temps, mais en période Covid, tu n'avais pas le droit. Donc... c'était compliqué d'avoir du relais pour Véro, c'était difficile. Moi, je continuais de travailler parce que en pharmacie, on était ouvert. On était en pleine pandémie, donc les gens, il fallait quand même qu'ils se soignent. Donc, ils venaient quand même à la pharmacie prendre leurs médicaments. Et du coup, moi, je travaillais. Et du coup, elle n'avait pas vraiment pas du tout de relais, quoi. J'ai pas eu beaucoup de rôle à jouer pendant cette période Covid. Malheureusement, elle a dû assumer beaucoup notre premier bébé tout petit, quoi.
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait de différent pour le deuxième,
pour justement la deuxième. Ouais, pour la deuxième, on a fait différemment. En vrai, pour la deuxième, ça s'est beaucoup mieux passé parce que plus de période Covid. Donc, on a pu avoir un peu plus de relais avec mes parents, surtout pour la première, ils puissent s'en occuper un petit peu. Surtout les week-ends, elle avait école la première et du coup, on était assez rythmé en fait finalement. Grâce à la première, on avait un rythme qui était là avec l'école et du coup... on a moins profité, c'est-à-dire des premiers jours de notre deuxième, parce que fallait s'occuper de la grande. Bah, elle nous a pas mal sollicité, mais c'est normal, elle avait 3 ans. Donc, à 3 ans, voilà, on en a besoin de beaucoup, beaucoup d'attention, quoi.
Mm.
Et du coup, d'avoir le deuxième à ce moment-là, bah, ça n'a pas été simple. Mais bon, voilà, j'ai eu mon rôle à jouer en m'occupant de la première, effectivement, la plus grande, à ce moment-là, ou quand Véro, elle était avec le bébé, vraiment, bah, beaucoup aussi. Donc, pareil. Au début, j'étais pas beaucoup avec la petite, mais je pense que le rôle du père, justement, il est pas forcément pour les tout petits. Je pense que après 3 mois, on a beaucoup plus un rôle qui se découvre, en fait, avec le bébé, d'interaction, etc. Les premiers mois, on n'a pas forcément un rôle qui peut être très dominant par rapport à l'attention au bébé, mais plus, on a plus d'attention à la maman et à l'environnement, à la maison, les enfants plus grands. La maman plutôt qu'au petit bébé. Mmh. Je pense que c'était ma place. Je pense que c'est le rôle des papas. Ça sert à rien de se mettre la pression directe à vouloir donner le biberon dès qu'ils ont quelques jours, etc. Parce que c'est pas là qu'on crée le lien. Et ça peut même être un peu frustrant pour certains papas de vouloir s'investir à ce moment-là parce que le bébé, il a besoin de sa maman à ce moment-là. Enfin, il y a plein de choses à faire ailleurs. Pour soulager justement la maman, qu'elle puisse s'occuper de son bébé sereinement et qu'elle n'ait pas à gérer les courses, qu'elle n'ait pas à gérer la maison, le ménage, qu'elle n'ait pas à gérer d'amener les enfants à l'école, etc. Je pense que le rôle du papa, justement, il est à ce moment-là à décharger la maman de tout ce qu'elle a à faire autre que de s'occuper de son bébé qui a besoin d'elle toutes les demi-heures pour le sein ou la sieste ou la couche ou les choses comme ça.
C'est vrai que souvent on oublie que le bébé il a passé 9 mois dans le ventre de sa maman et qu'il est en phase de transition. Ouais.
Ouais, il est encore très très lié, il est encore dans ce sommeil où il était bien au chaud, quoi.
Et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi, de la grossesse au postpartum, les deux, à quel moment tu t'es sentie vraiment en difficulté ou dépassée ou seule?
Je pense que c'était la fatigue accumulée des nuits qui étaient un peu entrecoupées. Ça, c'était dur. La transition aussi d'être parent, d'être papa, d'être maman tous les jours, tous les matins, du matin au soir et même la nuit des fois. Et c'est cette transition-là qui est pas simple. Je pense que j'ai eu pas mal de moments où je me sentais triste, je pleurais, j'étais un peu pas bien quoi à ce moment-là, je pense. Ouais, c'est cette transition-là où c'est tous les jours, tout le temps. Et avant, on avait beaucoup de temps libre. J'avais mon foot, donc je voyais mes copains 1 à 2 fois par semaine. Je jouais à mes jeux vidéo, je passais beaucoup de temps là-dessus. Ça a été dur, ouais, ça a été difficile d'accepter. Et si on rajoute la fatigue par-dessus, ouais, il y a un moment où on lâche, on pleure, où c'est dur, ouais, c'est dur. Mais jamais on regrette parce que tous les matins, c'est beau de s'occuper de ses enfants et de les voir grandir tous les jours, les voir apprendre, les voir évoluer, c'est gratifiant quand même. On se sent fier aussi d'être parent. Donc ça compense énormément. Moi, j'étais très fier d'être papa. Ça fait vraiment partie de moi maintenant. Je pense que j'ai un peu plus confiance en moi grâce à ça aussi. Je me sens un peu plus valorisé. Je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de me sentir valorisé par quelque chose, mais j'avais pas encore trouvé quoi. J'étais jamais bon en quoi que ce soit, ni aux études, ni au travail, ni au foot, ni aux jeux vidéo, ni rien. J'ai toujours été un peu moyen, quoi. Et le fait d'être fier d'être papa, et j'espère que je suis un bon papa, enfin, en tout cas, je le pense, et du coup, je suis très fier de ça.
Et quand tu étais sur des moments difficiles où tu te sentais pas bien, est-ce que tu es allé chercher de l'aide? Comment tu as fait pour surmonter ce moment-là?
On parlait beaucoup avec ma femme, on en parlait beaucoup. Hein. On discute assez facilement de ces choses-là. J'ai pas forcément été parlé ni à des amis, ni à des psy ou des choses comme ça. J'ai pas eu besoin, je pense, d'une thérapie. Non, je suis quelqu'un qui est assez, comment dire, qui prend son mal en patience, on va dire, qui se dit que j'ai assez relativisé, j'arrive à relativiser, à me dire que c'est un passage. Je suis un peu résilient, voilà. C'est ça, je pense que je suis résilient pour pas mal de choses et du coup, je m'en faisais pas toute une montagne, quoi. Je sais très bien que les périodes difficiles, ça finit par s'arrêter, ça finit par s'améliorer. Une fois, j'en ai parlé un peu à mon médecin, je me suis un peu effondré parce que j'étais fatigué, etc. Donc, il m'a dit, c'est normal et tout. C'est normal, c'est un gros changement, etc. Il m'a rassuré. Et puis, c'était quelqu'un avec qui j'avais confiance. Donc, voilà.
Et au niveau de ton couple, est-ce que tu as senti qu'il y a des fragilités qui sont créées ou est-ce que ça a
Non.
plutôt renforcé votre relation?
Non, non, il n'y a pas eu de fragilité. Évidemment, il y a des nuits où on est réveillé, etc. On est un peu plus attaqué, ou moins patient, on va dire. Et du coup, effectivement, il peut y avoir un peu de frustration d'un côté ou de l'autre. Mais non, dans notre couple, ça n'a pas fragilisé les choses. Au contraire, effectivement, ça nous a liés encore plus, quoi.
Est-ce que vous êtes
Non.
resté en cododo un petit moment ou pas?
Ouais, oui, on l'a fait beaucoup, hein. Cododo, on l'a fait pendant plusieurs mois, effectivement. On l'a fait vraiment beaucoup. Et c'est pas, ça nous a pas du tout dérangé, au contraire. C'est notre vie de couple, elle s'est pas mise en parenthèse pour autant. On arrivait à trouver des moments tous les deux aussi, de temps en temps. On pouvait aller se faire un resto ou un ciné. Voilà, il y avait mes parents qui pouvaient prendre le relais. Même encore maintenant. On n'a pas de problème à laisser nos filles à mes parents pour une nuit, même 2 nuits des fois, ça arrivait déjà. Et puis, ouais, au niveau je sais pas si on peut en parler, mais au niveau des rapports sexuels, etc. Bah ça, on a pris le temps après le premier accouchement. On a pris le temps déjà qu'elles se remettent de l'accouchement. C'était pas du tout une pression qu'on avait. C'est pas du tout un truc que j'avais envie de remettre en place tout de suite. Je lui ai pas du tout mis la pression là-dessus. Au contraire, même, c'était plutôt elle qui se sentait un peu coupable. Et on a attendu qu'elle soit vraiment prête physiquement et mentalement pour qu'on puisse avoir à nouveau des rapports. Et je pense que même plus on attend, mieux c'est parce que. Bah, c'est quand même un traumatisme quand même qui est assez fort pour le corps et pour l'esprit, pour la maman. Et je pense qu'on n'a pas de pression à lui mettre. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se mettent du coup la pression et qui ont envie d'accélérer un peu les choses et de prendre. Voilà, mais enfin, je pense que c'est vraiment, si on a vraiment un truc où il faut respecter, c'est vraiment ça. C'est vraiment prendre le temps qu'elle soit OK là-dessus.
Vous étiez déjà à l'aise pour parler de ce type de sujet.
Ouais. On s'était déjà posé la question, on s'était déjà dit ça mettra du temps, on ne sait pas combien de temps, et puis c'était pas du tout une pression. Parce que bah en vrai, il y a plus important que ça, quoi. Faut le savoir, c'est que notre centre d'intérêt, il change.
Sur un autre sujet, tu parles souvent de la présence de tes parents.
Ouais.
Comme soutien, est-ce que le fait de toi-même devenir père, est-ce que ça t'a fait revoir un peu ta relation avec eux, réfléchir à ton enfance, à comment tu as été éduqué? Est-ce qu'il y a eu des allers-retours dans ta tête à ce niveau-là?
Ouais, un petit peu. Surtout avec ma femme, on s'est dit en fait, j'ai eu une bonne enfance. En fait. J'ai eu les bons parents parce que ils sont bienveillants, ils sont OK avec tout ce qu'on veut mettre en place. Ils ont respecté tout ce qu'on leur a demandé et ils ont vraiment été là pour nous soutenir, pas pour nous juger. On a fait le choix d'accoucher à la maison. C'est un choix qui se faisait pas trop à leur époque parce que l'époque de nos parents accouchaient tous à l'hôpital. Ils n'accouchaient pas à la maison, ça se faisait pas, ça se faisait plus. Hein. Alors que eux-mêmes avaient été une génération où leurs parents, ma mère, elle est venue au monde dans le lit de sa mère, comme tous ses frères et sœurs avant elle. Donc c'est un truc qui s'est perdu à la génération d'avant. Hein. Donc ce truc d'accoucher à la maison, c'était un choix surprenant, mais au début, ils étaient surpris, mais ils étaient OK avec ça.
J'avais juste une dernière question. Si tu avais un message à faire passer à ton moi d'avant, celui qui n'était pas encore père, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je lui dirais, finis les travaux avant de faire un bébé. Sois serein avec ça. Finis ce que tu as à faire, mais sinon, le plus beau reste à venir. Tu vas réussir des choses qui te sont un peu insurmontable et puis surtout que tu vas pouvoir y arriver, que ça va pas forcément être facile, mais je me sens pas hyper changé, c'est juste maintenant ça fait partie de moi comme tout ce qui s'est passé dans ma vie. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui m'ont construit, toutes les rencontres m'ont fait évoluer jusqu'à maintenant. Et un bébé, deux bébés, bah, c'est des rencontres en plus, c'est des personnes qui vont t'influencer, ouais, c'est ça, qui vont te faire évoluer, qui vont te faire grandir. Et puis surtout Véro qui m'a fait beaucoup grandir et qui m'a appris beaucoup. Ouais. Donc fais confiance à Véro, elle sera toujours là pour t'écouter et du coup fonce quoi.
Ça me rappelle que j'avais quand même une question. Le sujet de travaux pour les papas, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, tu as essayé de finir ce que tu pouvais. À quel état de l'avancement des travaux tu étais quand ton enfant est né?
Eh ben, les travaux en bas étaient quasiment faits, je crois. Et puis après, nous, on avait encore pas mal de choses à mettre en place dans notre zone d'habitation, on va dire. Donc, mais ça s'est fait tranquillement. Voilà, on n'a pas pu tout faire les premières années, quoi. Ça a mis du temps, quoi. Mais bon, c'est pas fini encore, il y a encore des trucs à faire. Mais je crois qu'une maison, c'est jamais fini, donc ça sert à rien d'attendre et de se dire on fera ça quand tout sera fini, parce que rien n'est fini, ça change. Donc non, en fait, c'est pas... c'est important, mais c'est pas si vital que ça. Voilà. La chambre du bébé, c'est pareil... C'est pas obligé qu'elle soit totalement finie avant qu'il arrive. Mais bon, pour la maman, ça peut être important. Donc, voilà.
C'est vrai que ça peut être ambigu. Oui, c'est ça, ça peut être ambigu. Parce que la chambre, de toute façon, tu l'utilises.
La chambre du bébé, en vrai, elle ne sert pas à grand-chose.
C'est ça. Mais il faut qu'elle soit finie.
Elle ne sert pas à grand-chose parce qu'on était en cododo et voilà, elle a été dans sa chambre assez tard.
Et combien de temps tu as attendu avant de recommencer les travaux?
Bah, ça dépendait, en fait. Souvent, les travaux, je les fais avec mon père et de la famille aussi quand ils viennent. Parce que j'ai la chance d'avoir un père qui est retraité, des parents qui sont retraités, fraîchement retraités, et ils ont des frères et sœurs, j'ai des oncles et tantes qui sont aussi retraités, et quand ils viennent en vacances dans la région, en général, c'est pas des vacances, il y a toujours des travaux, du travail à faire, et du coup, ils sont toujours volontaires et ça fait plaisir d'avoir des gens qui sont volontaires et du coup les travaux ont avancé petit à petit quoi.
D'accord. Merci beaucoup Thibaut d'avoir accepté d'échanger avec moi. C'était un plaisir.
Pareil. Ça fait plaisir de revivre un peu les premiers instants de papa et toujours un plaisir de raconter ça. Tu as toujours les mots en plus, je suis pas trop expressif mais.
Est-ce que tu as l'occasion d'en parler? Est-ce que ça t'arrive d'en parler avec des amis sur cette expérience?
Maintenant, un peu moins, parce que bon, bah, c'est quelque chose que tous nos proches le savent. Mais c'est toujours une fierté. Ouais, la plus grande fierté qu'on va garder, en fait, c'est l'accouchement à la maison. Et ces premières semaines sur le canapé, ouais, sur notre petit nuage. Ça, c'est vraiment une fierté qu'on a plaisir à raconter. Ouais.
C'est vrai que ça donne envie, hein. Même ceux qui veulent plus d'enfants, je pense que tu leur racontes ça, ça donne envie.
ouais, ça donne envie, surtout, et j'ai envie de leur dire, ça peut mal se passer, ça tout le monde le dit quand tu vas à l'hôpital, c'est juste pour te faire peur. En général, ça se passe bien. Tant que ça se passe bien, ça se passe bien. S'il y a un truc, effectivement, si vraiment il y a quelque chose qui peut arriver à tout moment... Il faut prendre en charge, mais normalement c'est fait pour que ça roule quoi. Donc normalement tout roule.
On va finir sur cette note optimiste qui donne de l'espoir et de l'envie.
Ouais, tout ça va, tout va bien.
Merci beaucoup Thibaut.
Tout va bien.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Gardiens de la Naissance. Si cette interview t'a touché ou éclairé, le défi audio te sera encore plus utile. Ce sont plus de 20 sujets spécifiquement dédiés aux futurs pères avec des outils pratiques et des actions concrètes à mettre en place dès aujourd'hui. On y parle de grossesse, d'accouchement, de postpartum, d'allaitement, de lien avec ton bébé, de sexualité, de comment parler d'argent en couple. Bref, j'ai mis tout ce qui aurait changé la vie de mon mari et la mienne pendant ma première grossesse. Ce podcast est tout nouveau et j'ai besoin de ton soutien pour le faire connaître. N'hésite pas à le noter sur ton appli ou à le partager avec tes amis. Et si tu veux recevoir des ressources gratuites chaque semaine, inscris-toi à ma newsletter. Tous les liens sont en description de l'épisode.
On se retrouve très vite pour un nouveau récit. À bientôt.